toute autorité m'a été donnée au ciel et sur la terre, dit Jésus. On pourrait traduire tout pouvoir, selon les versions, on trouve ça. Toute faculté, toute capacité m'a été donnée. Jésus est donc vraiment détenteur de tous les pouvoirs sur la terre et au ciel. Il est dépositaire des super-pouvoirs de Dieu. C'est ce que nous entendons ici. Tout le passage que vous avez sous les yeux est marqué par cette autorité. D'abord, Jésus ordonne aux disciples d'aller en Galilée sur une montagne. La montagne, c'est traditionnellement dans la Bible le lieu où se manifeste l'autorité divine. Et celle de Jésus en particulier dans l'évangile de Matthieu, c'est le lieu où il sera transfiguré, où les disciples verront l'autorité divine rayonner de son visage. Et puis, pour couronner le tout, ici, Jésus reprend les paroles que Dieu avait prononcées au buisson ardent dans sa rencontre avec Moïse. « Moi, je suis », lui avait dit Dieu. Et ici, Jésus dit « Moi, je suis avec vous tous les jours. » Tout dans ce très dense épilogue souligne la puissance et l'autorité divine de Jésus. D'ailleurs, les disciples ne s'y trompent pas, ils se prosternent et l'adorent. Et Jésus leur donne un ordre de mission très précis. Alors, vous avez vu le langage, je vais vous le souligner là, le langage de la totalité, le mot « tout », regardez, il apparaît plusieurs fois. Voilà, voilà. Tout pouvoir, aller vers toutes les nations, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, je suis avec vous, tout les jours. Là, on a vraiment le sentiment que la souveraineté du Christ est tout à fait dévoilée. Elle est sans limite, absolue, totale, je n'ai pas les mots, définitive. Elle est divine. Elle fait d'ailleurs écho à la prière que Jésus nous enseigne, sur la terre comme au ciel, hein, cette phrase du Notre Père. Cette autorité du Christ que les théologiens grecs avaient appelé le Christ Pantocrator, ce qui veut dire tout-puissant. Cette autorité du Christ, elle a fasciné les théologiens depuis le début de l'histoire de l'Église. Tout au long des siècles, les artistes chrétiens l'ont représenté avec ces immenses mosaïques dont je vous ai montré tout à l'heure un exemple, mais aussi des tableaux, des sculptures du Christ installé sur son trône et exerçant son règne absolu et universel du haut du ciel. Et il reste à savoir comment s'exerce concrètement cette autorité? Est-ce qu'elle est exercée directement du haut du ciel sur la terre? Ou par délégation? Comment ça marche? Certains seraient alors sur la terre un peu les dépositaires du pouvoir, les lieutenants du Christ en son absence? Voilà, ces questions-là se sont posées tout au long de l'histoire de l'Église. Cette question a reçu des réponses très différentes et elle a animé aussi de rudes combats. trois grandes réponses ont été apportées à cette question du comment s'exerce l'autorité du Christ. La première réponse, eh bien, c'est la suivante. Puisque Christ règne au ciel, sa souveraineté est donc déléguée à ses représentants sur la terre. Ses pleins pouvoirs sont remis aux mains du souverain ou de l'empereur, ça dépend comment on l'appelle selon les époques. C'était le temps de l'alliance entre le sabre et le goupillon, vous connaissez l'expression, entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Le roi tient son autorité de droit divin, il est le lieutenant du Christ sur la terre. Ce modèle a atteint dans l'histoire son apogée au Moyen-Âge, en Occident. Il y a une seconde réponse qui consiste à dire que le Christ n'a pas besoin de lieutenant et qu'il exerce son pouvoir divin directement du ciel où il se trouve. Il l'exerce sur la terre où nous nous trouvons, lui, directement. On a là l'idée un peu d'un Dieu caché qui tire les ficelles d'en haut selon son plan, ses désirs, sa volonté, quelquefois même son humeur, on ne sait pas, hein, ce qui lui inspire ses actions. Il réalise les événements qui sont heureux et malheureux, les cataclysmes, les épidémies, les guerres, mais aussi les moments de bonheur, de santé et de prospérité. Voilà, vous avez Dieu là-haut, sans intermédiaire, qui fait tout ça. Il existe une troisième réponse possible à la question de l'exercice des pleins pouvoirs par le Christ, les pleins pouvoirs du Christ sur la terre, et Jésus attribue non plus au roi ou à l'empereur, mais à certains chrétiens, on va dire les plus fidèles, hein, les plus saints, les plus consacrés, il attribue ses pouvoirs, ses super pouvoirs. Lesquels ? Les pouvoirs de guérison, les pouvoirs de prédication, les pouvoirs de prophétie, de délivrance, pouvoirs de bénédiction, de malédiction, de prospérité, de jugement, voyez. Il remet tout ça entre les mains de certains chrétiens, de certains hommes de Dieu, comme on les appelle aussi. Voilà les trois principales façons d'interpréter, de comprendre l'exercice de l'autorité du Christ sur la terre. Et aujourd'hui encore, dans les églises, eh bien, selon ce qui est cru, pensé, prêché, on est souvent proche de ces trois possibilités, ces trois lectures. On va les appeler par délégation générale. Vous avez au roi, Christ donne au roi sa délégation. Enfin, c'est plus trop le cas en Occident, il n'y a plus de roi. Mais, ou bien alors par intervention directe, ou alors par attribution spéciale. Voilà les trois modèles que je résume. Vous ne me sentez pas totalement convaincu, je crois, c'est peut-être ma façon de le présenter, par ces trois modèles. Vous avez bien fait de le penser. Alors le mieux, je crois, si on veut trouver un quatrième modèle, c'est de revenir au texte et d'y chercher dans les mots peut-être une quatrième voie. Voyons un peu ce que Jésus fait de ses super pouvoirs. Il dit donc, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, voilà. Voilà le premier effet, la première action concrète de la superpuissance de Jésus. Cette superpuissance cosmique de Jésus, voilà son effet, il dit « Allez donc !» Il ne désigne ici aucun vicaire, aucun représentant de son pouvoir. Il n'annonce pas non plus qu'il va tout diriger directement d'en haut, Il ne désigne aucun ayant droit, en ajoutant au passage, vous savez, une liste de critères à remplir, de conditions spirituelles à présenter. Non, le seul équipement que Jésus donne à ses disciples, que je vous invite à repérer dans le texte, c'est sa parole. Cette parole est gravée dans leur cœur. Il les a enseignés pendant 3 années. Et puis il y a maintenant cette ultime, cette dernière parole, parole d'envoi, qui est simple et confiante. Allez, allez donc. C'est un envoi risqué quand on y réfléchit. Il s'agit d'aller bien au-delà de sa petite communauté, hein. Il s'agit d'aller hors de sa zone de confort, comme on dit, parce que l'envoi est en direction de toutes les nations. Au risque de se perdre en chemin, aller vers toutes les nations. En regardant de près cette parole d'envoi, je trouve qu'elle n'est pas très précise pour celui qui aime bien les règles précises. Elle contient un certain flou. J'en ai pour preuve les 3 ordres qui suivent cet envoi. Premièrement, faites des disciples. Deuxièmement, baptisez-les. Troisièmement, instruisez-les. Vous ne trouvez pas ça un peu déroutant comme méthode, comme logique ? N'importe quelle catéchète, je parle sous l'autorité de Marie-Claire, n'importe quelle catéchète ou pasteur trouvera plus naturel, plus stratégique, d'enseigner d'abord, de baptiser ensuite, pour faire finalement entrer les nouveaux convertis dans la communauté des vrais disciples. Mais ce n'est pas ce que préconise Jésus ici. Sa logique est inversée, regardez. Faites des disciples, baptisez-les et instruisez-les. Ce n'est pas le même ordre. Autrement dit, je le reformule à ma manière. Allez, mettez-vous en route et ça va le faire. Ça se précisera plus tard, ça s'éclairera en chemin. Vous verrez bien, allez donc. Avec cette méthode, la méthode Jésus, Jésus nous fait perdre le contrôle sur l'entreprise missionnaire type. On s'assoit, on compte et après on y va. Non, il nous dit, allez, et vous découvrirez en chemin comment faire des disciples. On sent qu'il y a une invitation à une prise de risque évidente. Je ne sais pas lequel d'entre nous peut partir, aller, sans savoir où il va. Avant de partir, nous aimons bien savoir les choses qui vont se passer. On fait des programmes pour les vacances en particulier. Ce risque, ici, est très important à penser. Revenons au tout début de notre texte. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais ils eurent des doutes. Vous l'aviez repéré, ça, à la première lecture ? Et certaines versions, traduction française, choisissent de traduire autrement. D'ailleurs, si vous avez vos Bibles, vous pouvez le repérer. Peut-être ce sera inscrit de cette manière. Quelques-uns ou certains eurent des doutes. Comme si le fait que les disciples, sous-entendu les vrais, les 12, les 11, là, puissent avoir des doutes, ça c'est impossible à concevoir, à envisager. On est après la résurrection, tout est clair. Mais le texte grec, lui, est très clair. La traduction, la Tobe que j'ai lue ce matin, l'a bien suivi, les disciples le voient, bon, ils l'adorent, et cependant, ils ont des doutes. Voilà ce que le texte grec écrit. Et j'entends que Jésus ne cherche pas à recruter une équipe de super disciples, super solides dans leur foi et surtout inaccessible au doute. Regardons aussi comment Jésus répond aux doutes de ses disciples. Comme il fait à son habitude, auprès des gens qui ont des problèmes, il s'approche. C'est toujours pour rassurer quand Jésus s'approche. C'est toujours pour accueillir, pour toucher souvent, pour aimer, jamais pour juger. Il vient, s'approchant, encourager ces hommes qui sont à la fois des croyants et des douteurs. Et je vois là la nature même du super pouvoir de Jésus sur le monde. Ce pouvoir de Jésus tient tout entier dans la parole confiante qu'il prononce là tout près de chacun, dans l'intimité de chacun. Une parole qui l'engage lui-même et qui nous engage à sa suite. Allez, allez donc. Il reste un détail à régler. Comment allons-nous bénéficier et puis mettre en œuvre ce pouvoir de parole? C'est tout simple au fond. Comment ça marche une parole? Une parole, ça s'écoute. Il faut prendre le temps du silence parce que la parole fait sa place en nous. S'il y a trop de bruit, elle ne peut pas. Et nous vivons dans des temps où le bruit est permanent et les diversions nombreuses. La parole a besoin de ce silence. Et puis, une fois qu'elle est là, qu'elle habite la personne, la parole, ça vous transforme. Ça vous bouscule et ça vous met en marche. Mais si nous attendons que quelque chose de plus que la parole nous soit donné pour prendre la décision d'aller, eh bien, le risque est de rester planté là longtemps à nous regarder le nombril. Moi, j'entends quelquefois les croyants s'interroger ou m'interroger sur les dons spirituels. On en avait déjà parlé ici. Quel don ai-je reçu de l'Esprit-Saint? Question récurrente. Est-ce que j'ai le don de prophétie? Est-ce que je vais avoir le don de guérison? Est-ce que c'est celui de la connaissance, de la délivrance? La liste, il y en a dans le Nouveau Testament. Et on reste là, inquiet, déçu, à se regarder le nombril pendant que résonne la parole du Christ ressuscité. Allez, allez donc, mettez-vous en route vers la Galilée et vous découvrirez, chemin faisant, ce que j'attends de vous. Prenez le risque d'aller sans savoir où exactement. Si nous attendons de recevoir des pouvoirs spéciaux pour nous mettre en route, pour nous mettre au service de l'Église, nous ferons l'expérience de ne rien recevoir du tout. Et nous entretiendrons les sentiments de frustration et d'amertume qu'on rencontre quelquefois dans l'Église, chez les chrétiens. Et nous finirons par penser que nous sommes nuls, des chrétiens de seconde zone, pas spirituels, pas très croyants. Et tout cela est complètement faux. Si au contraire, nous prenons le risque d'aller, nous nous mettons en route sur la seule foi de cette parole en Jésus, cette parole de Jésus, nous allons découvrir, chemin faisant, tout ce qu'il faut. La puissance, la dynamique propre à cette parole. Nous soulèverons des montagnes sans même quelquefois le savoir. Pour reprendre les mots du psaume 119, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » L'auteur du psaume 119 aurait pu se limiter à écrire, et ça aurait été très beau, et on aurait trouvé ça magnifique, on l'aurait chanté dans nos cultes, « Ta parole est une lampe, ta parole est une lumière. » Mais il ajoute, devant mes pas, sur mon sentier. C'est bien dans l'engagement, dans la marche, que nous découvrons le chemin à faire. Et non en restant au bord de la route, à regarder des cartes, à nous interroger, à nous perdre en introspection sans fin. Et par deux fois dans ce passage, les disciples sont appelés à aller. Une première fois, Jésus leur ordonne d'aller à sa rencontre sur la montagne, en Galilée, et la deuxième fois, d'aller faire des disciples, baptiser et enseigner. Et vous savez ce qu'il y a entre ces deux déplacements ? Vers la montagne pour adorer, et puis vers les peuples pour témoigner. Il y a l'expérience de la foi, et il y a l'expérience du doute. Sœurs et frères, n'attendons pas pour nous mettre en marche d'avoir vaincu nos doutes, nos faiblesses, nos imperfections. N'attendons pas d'avoir atteint le niveau des super chrétiens, remplis des super pouvoirs de Jésus. Mais allons donc, dès maintenant, sans attendre, avec la foi et avec le doute, chevillés au cœur. Dieu nous aime comme nous sommes, il nous précède sur le chemin de la vie. Il y a tant de personnes qui attendent de devenir disciples, tant de gens qui attendent de recevoir le baptême et de comprendre les Écritures. Allons donc, prenant appui sur cette unique, cette ultime parole de Jésus, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Allons. Ça commence par là. Vivons et devenons ce que le Seigneur désire pour nous. La réponse est sur le chemin. Allons, il nous y attend. Amen.